Europe 1, historiquement vôtre. Le récit. Stéphane Bern.
Si son talent et l'importance de son œuvre littéraire sont aujourd'hui reconnus, cette poétesse américaine de renom depuis la fin du 19e siècle était pourtant inconnue de son vivant. Je vous raconte maintenant une plume qui a vécu presque toute sa vie dans la même ville des États-Unis où elle a passé ses dernières années enfermée dans sa chambre à écrire, Emily Dickinson. Nous sommes en 1886 dans la petite ville austère d'Amherst, dans l'état du Massachusetts, au nord-ouest des États-Unis. À l'étage de la maison familiale des Dickinson, une dame de 55 ans, toute vêtue de blanc, se penche à la fenêtre pour offrir des caramels et confiseries aux enfants du voisinage. C'est une drôle d'âme que cette recluse, dont tout le monde salue certes l'intelligence, mais déplore l'originalité. Dans la ville, on la surnomme la nonne d'Amherst, car cela fait plus de 10 ans maintenant qu'elle ne quitte presque plus jamais sa chambre, sauf quand le jour tombe pour aller se promener dans son jardin et soigner ses fleurs. À Amherst, personne ne sait encore, surtout pas elle, qu'elle sera un jour reconnue comme l'une des plus grandes poétesses américaines de son temps. Si Emily Dickinson mourra cette année-là, elle n'a pas toujours vécu enfermée, mais a vécu, c'est vrai, toujours là. Née le 10 décembre 1830 à Amherst, où sa famille est ancrée depuis les premières heures des 13 colonies d'Amérique, Emily passe son enfance dans la maison bâtie par son grand-père, Samuel Fowler Dickinson, entouré de son grand frère Austin et de sa sœur Lavinia, de 2 ans sa cadette et dont elle est très proche. Son père, Edward Dickinson, est un avocat consciencieux, une personnalité publique investie dans les institutions de la ville et la vie politique de l'État du Massachusetts, comme l'avait été son père avant lui. Au cours de sa vie, il sera même élu au Congrès des États-Unis. Emily Dickinson est très attachée à lui, même s'il est un homme autoritaire. Lorsque sa santé fragile l'oblige à rester à la maison, elle lui prépare des puddings. Grand lecteur, lui offre des livres à sa fille. En grandissant, Emily Dickinson lira Shakespeare, les sœurs Brontë, entre autres. Quant à sa mère, Emily Norcross, la jeune fille ne s'en sent pas proche. C'est comme si une frontière invisible séparait toujours Emily Dickinson des autres. Même son père ne voit pas que sa fille a un don. Trop terre à terre, peut-être. Pourtant, dans ses rêves, Emily Dickinson laisse entrevoir la part de rêve et de poésie qu'il habitait, lui, lorsqu'il s'émerveillait devant un coucher de soleil ou tenait à nourrir les moineaux de passage dans leur jardin enneigé. Le jardin, la neige, les oiseaux, Emily Dickinson en fait justement des thèmes récurrents de sa poésie. Dans sa jeunesse, la nature la fascine tant qu'elle constitue un herbier de plusieurs centaines d'espèces de plantes. Quand commence-t-elle à griffonner des rimes à la gloire de cet univers qui l'enivre ? À écrire de la poésie partout, sur des petits morceaux de papier ou des cartons d'emballage ? Vers l'âge de 11 ans. Alors que sa famille a déménagé dans une autre maison du quartier, Emily Dickinson quitte l'école primaire pour intégrer l'académie d'Amherst. Puis l'année de ses 17 ans, elle est pensionnaire au séminaire de Mount Holyoke, à South Hadley, où elle impressionne les autres élèves par son esprit libre et fin. Emily le quitte en 1848 pour retourner vivre définitivement dans sa ville natale. Comme sa petite sœur Lavinia, Emily ne se mariera jamais. Alors que leur frère aîné construit sa vie de famille dans une maison du voisinage, les deux femmes resteront vivre avec leur père jusqu'à sa mort en 1874 et leur mère, victime d'une attaque 1 an après le décès de son mari, qui la paralyse jusqu'à la fin de sa vie. Pendant 7 ans, ses filles s'occuperont d'elle. Lavinia dirige la maison, tandis qu'Emily sort de plus en plus rarement de sa chambre, préférant la solitude à la compagnie d'un époux. En amour, Emily Dickinson vit de son imagination et d'espoir déçu, dont elle imprègne ses poèmes. À 24 ans, sur le chemin du retour d'un voyage à Washington avec ses parents et sa sœur Lavinia, l'écrivaine était tombée amoureuse. Ce jour-là, la famille fait alors étape à Philadelphie. Et à l'église, le pasteur Charles Wadsworth la subjugue. Elle a 16 ans de plus qu'elle et est déjà mariée. Leur relation restera épistolaire, ponctuée de quelques rares visites, mais l'amour que ressent Emily laisse de profondes marques dans son œuvre et dans sa vie. En 1862, lorsque le révérend Charles Wadsworth quitte Philadelphie pour une paroisse de San Francisco, en Californie, Emily Dickinson commence à s'isoler du monde. À cette date, son esprit semble loin de la guerre civile qui enflamme alors les États-Unis, divisant le Nord et le Sud. À 31 ans, Elle s'attriste du nombre de morts qui augmente, mais ne commente guère plus le conflit, ni dans ses lettres, ni dans ses poèmes. Les textes de l'américaine abordent des sujets atemporels, la nature, les fleurs, le jardin, les oiseaux, la neige, la tristesse, la mélancolie, la vie, la mort, la maladie, la religion. Emily Dickinson ne parle jamais d'elle directement. Elle recherche plutôt, dit-elle, une vérité oblique. Sa propre personne l'intéresse peu. Elle l'écrit. « Je suis personne, qui êtes-vous ? Êtes-vous personne aussi ? Alors nous faisons la paire. Silence, on nous chasserait, vous savez, que c'est terrible d'être quelqu'un, que c'est commun, comme une grenouille, de dire son nom tout au long de juin, au marais qui admire. » Emily Dickinson n'est encore personne et elle ne cherche pas à devenir quelqu'un. Mais cela ne l'empêche pas de quémander des avis sur ses vers. Si l'année 1862 marque le début de sa vie recluse, elle est aussi celle de sa correspondance avec Thomas Wentworth Higginson, essayiste et poète américain célèbre de l'époque. Dans une première lettre, Emily Dickinson lui envoie quelques poèmes pour lui demander s'il les trouve vivants. Mais Higginson peine à comprendre la profondeur de celle qui lui écrit. Il juge son style fantasque et s'irrite de son excentricité qu'il retrouve dans ses œuvres. Ses textes n'ont pas de titre, sont étrangement scandés par des tirets et leur rime lui semble désordonnée. Il lui déconseille de les publier. Contrairement à lui, Mrs. Helen Jackson, amie d'Emily Dickinson, connue pour ses écrits dans les années 70 et 80, tente de la convaincre de publier ses poèmes. Mais la nonne d'Amherst s'obstine à refuser. Au cours de sa vie, Emily Dickinson a discrètement signé au moins 1775 poèmes, assemblés ensuite par ses soins sous forme de fascicules. Seule une dizaine d'entre eux ont été publiés de son vivant. Lorsqu'elle s'éteint, à l'âge de 55 ans, le 15 mai 1886, dans sa maison de famille, où elle était revenue vivre à 25 ans, son entourage découvre le reste de son œuvre monumentale. Un premier recueil est publié en 1890. Il remporte un succès qui ne manque pas de surprendre Higginson. C'est peu dire que l'écrivain manquait de flair et qu'Emily Dickinson, quant à elle, ne manquait pas de talent.